Donc tout d'abord les prochains séminaires. Tout à l'heure à 11h, il y aura Sandro Strigari de l'Université de Trento en Italie, que je suis heureux de saluer ici dans la salle, et qui va nous parler de Dynamics of Trapped Boss Gases, Quantum versus Interaction Effect, à 11h. La semaine prochaine, donc le 8, ce sera le professeur Peter Tonis du Max Planck Institute à Göttingen, qui va nous parler de Helium-4 clusters, how many atoms are needed to make them superfluid. Enfin, le 15 décembre, c'est-à-dire le dernier mardi de cette année civile, il y aura Franck Laloé du laboratoire Cassia-Brossel de l'École normale supérieure, parlera de, au-delà de la théorie du champ moyen, un mécanisme pour la superfluidité dans les gaz. Donc les trois derniers séminaires de l'année auront tous trait à la condensation de Bose-Einstein dans divers systèmes. Bon, je reprends aujourd'hui et je termine le cours de la semaine passée sur la transformation de Bogoliubov. En me limitant évidemment, comme la semaine dernière, à des bosons dans une boîte, c'est-à-dire à un système homogène. Alors je rappelle très brièvement les calculs, les résultats plutôt des calculs que j'ai fait très en détail la semaine dernière, un calcul un petit peu ingrat mais indispensable. Je rappelle un peu la démarche que nous avons suivie. Nous sommes partis du Hamiltonien du système, que je réécris ici, tout d'abord dans le point de vue habituel, H égale somme de I égale E à N de PI carré sur 2M, énergie cinétique, plus 1 demi sigma I, sigma J différent de I de V de RI moins RJ, interaction entre les particules, et je n'ai pas de terme dans le potentiel extérieur parce que les particules sont libres, il n'y a pas de potentiel de piégeage. Puis, comme nous avons voulu aller plus loin que la théorie Hartree-Fock, où on s'intéresse uniquement à l'état fondamental de cet Hamiltonien en l'étudiant au moyen d'une méthode variationnelle. Là, nous avons vraiment besoin de diagonaliser au moins de manière approximative cet Hamiltonien, donc il est nécessaire d'avoir un formalisme commode pour travailler et pour tenir compte des possibilités de symétrisation. Ceci, c'est la seconde quantification, et je vous ai rappelé que l'expression, la semaine dernière, que l'expression de H, c'est sigma k h bar 2 k2 sur 2m a k 3 k, énergie cinétique h bar 2 k2 sur 2m, je rappelle que h bar k c'est p, l'impulsion, a k 3 k k, nombre de particules dans l'état k, plus un terme, 1 sur 2l3, une somme sur 3 valeurs de k, 4 opérateurs de création et d'annihilation, que multiplie v de k, où v de k est la transformée de Fourier spatiale du potentiel d'interaction v de r. Dans ces expressions, AK et AK croix sont les opérateurs de destruction et de création d'une particule dans l'état K, et toutes les propriétés de symétrie se retrouvent dans les relations de commutation des AK et AK croix. Vous voyez ici que le terme d'interaction est un terme à quatre opérateurs. On détruit deux particules et on en crée deux. Et vous remarquez que la somme des K ici est égale à la somme des K ici, c'est-à-dire que l'impulsion totale est conservée. Comme l'interaction est invariante par translation global de toutes les particules, l'impulsion totale est conservée. Donc il n'y a pas une somme sur quatre indices différents, c'est uniquement sur trois indices. Bien, alors la semaine dernière, j'ai d'abord essayé de manipuler un peu cet Hamiltonien et de le traiter perturbativement dans l'état fondamental et dans le premier état excité. Et vous rappelez que j'avais trouvé un résultat un peu surprenant, à savoir qu'entre l'état fondamental et le premier état excité, il y a un gap, à une distance d'énergie qui ne tend pas vers zéro quand la dimension de la boîte tend vers zéro, n tend vers l'infini, pardon, n tend vers l'infini avec rho constant. Ce résultat n'est pas physique parce que, évidemment, dans une boîte, le spectre est continu, les niveaux d'énergie sont très resserrés, et il n'y a aucun sens à ne garder que les éléments diagonaux de l'hamiltonien d'interaction. Il faut diagonaliser complètement l'hamiltonien. Les éléments non diagonaux sont aussi importants que les éléments diagonaux. D'où l'idée de faire une autre approximation, on va essayer de diagonaliser réellement l'hamiltonien, mais en travaillant dans un sous-espace, des états qui sont les plus importants lorsqu'on est proche de l'état fondamental, c'est-à-dire les sous-espaces des états dans lesquels la population de l'état K égale 0 est beaucoup plus grande que toutes les autres. C'est-à-dire dans l'espace des états tel que sigma sur K différent de 0 de NK est beaucoup plus petit que N, le nombre total de particules. Si on se limite à ce sous-espace, on s'aperçoit à ce moment-là que les éléments de matrice de A0 et A0 croix sont de l'ordre de racine de N, sont très grands devant les autres, et une bonne approximation à ce moment-là consiste à ne garder que les termes ayant un certain nombre de A0 ou A0 croix. Ceux qui en ont 4, ceux qui en ont 2, on peut montrer que la conservation de l'impulsion entraîne que les termes contenant 3 A0 ou A0 croix sont nuls, et on néglige donc les termes qui ne contiennent qu'un seul A0 ou A0 croix, ou 0 opérateur de ce type. Et enfin, dans les termes qu'on garde, qui ne contiennent donc que 2 A0 ou A0 croix ou 4 A0 ou A0 croix, on remplace partout A0 et A0 croix par des nombres racine de N, sauf peut-être dans le terme à 4 opérateurs, celui-là, où il faut faire le calcul un peu plus sérieusement. Et on l'a fait la semaine dernière. Et quand on fait ceci, on tombe sur un Hamiltonien qu'on va appeler Hamiltonien effectif, qui ne comporte évidemment que des termes quadratiques en A et A croix, plus un terme constant. On a un terme constant. On a des termes en AK croix AK, AK moins K croix A moins K, ça c'est des termes qui sont sympathiques, c'est des nombres de particules dans l'état K dans l'état A moins K, et on a des termes où il y a deux opérateurs de création, AK croix, mais qui est couplé à A moins K croix à cause de la conservation de l'impulsion, et des termes en AK A moins K, deux opérateurs de destruction. Il s'agit ici d'une forme quadratique des A et A croix, et on se rend bien compte qu'au moyen d'une transformation linéaire, on va pouvoir la diagonaliser. Alors, j'ai essayé de vous montrer la semaine dernière, de vous présenter un argument permettant de savoir ce qu'il fallait prendre comme combinaison linéaire. Cet argument est très simple. Si je prends cet Hamiltonien quadratique, je peux très bien calculer les équations de Heisenberg pour AK et AK croix. D sur dt de AK égale 1 sur IH bar commutateur de AK avec H effectif, et qu'on prend les seuls commutateurs non nuls de AK avec ces termes-là, AK ne commute pas seulement avec AK croix, on s'aperçoit que l'évolution de AK est couplée à AK et à A-K croix. D'où la nécessité de calculer aussi DA-KK, DA-K croix D sur dt. Et si on fait la même opération, calcule le commutateur de A-K croix avec H effectif, on trouve que A-K croix est couplé à AK et A-K croix. J'ai donc trouvé deux variables qui sont couplées l'une à l'autre par des équations linéaires. Donc il est clair qu'en prenant une combinaison linéaire de ces deux variables, je dois pouvoir trouver une combinaison linéaire qui évolue à une fréquence bien définie et qui est découplée des autres. D'où l'idée que les variables normales vont être des combinaisons linéaires de AK et A-K croix. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons introduit BK, qui est UK AK plus VK A moins K croix, où UK et VK sont des coefficients. Anticipant un peu sur la suite, on admet pour l'instant que UK et VK peuvent être trouvés réels et ne dépendant que des modules de K. On écrit la même équation pour moins K et on prend l'adjoint, on obtient B moins K croix égale ceci. Et on a donc deux équations, deux combinaisons linéaires de AK et A moins K croix. Et je sens bien que si je réexprime dans la Hamiltonien effectif de tout à l'heure tous les AK et AK croix en fonction de BK, BK croix, je dois pouvoir les mettre sous la forme d'une somme de BK croix, BK, une somme d'Hamiltonienne d'oscillateur harmonique. Attendons encore un petit peu, avant d'aller plus loin, je veux que BK et BK croix soient des opérateurs de création et de destruction d'un oscillateur harmonique. Donc je veux qu'ils satisfassent la relation de commutation BK, BK croix égale 1. Je calcule donc ce commutateur à partir de ces deux expressions, et utilisant le fait que AK croix est égal à 1, j'en déduis que si je veux que cette relation soit satisfaite, il faut que UK croix, UK carré moins BK carré soit égal à 1, ce que je réalise en prenant UK égale cosinus hyperbolique θK et BK égale sinus hyperbolique de θK. Donc, j'ai changé de variable, je n'ai plus qu'un paramètre maintenant qui est θK, et j'ai maintenant deux variables normales, BK et BK croix, qui satisfont les relations de commutation d'un oscillateur harmonique. Et maintenant, il faut que je repasse à l'Hamiltonien précédent, ici, et que je réexprime tous les AK et AK croix en fonction des BK et BK croix. Pour ce faire, on inverse ces deux formules, ce qui est très facile avec cette relation, et on obtient deux équations linéaires donnant AK et A-K croix en fonction de BK et B moins K croix. Donc, je reporte maintenant tout ceci dans l'expression précédente, et après un calcul sans malice, on trouve pour H effectif l'expression suivante. Trois lignes. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais je regarde simplement leur structure pour le moment. La première ligne est un nombre pur. Ça n'a pas d'opérateur. C'est un nombre que j'appelle E0. On l'interprétera tout à l'heure. La deuxième ligne a un coefficient près qui est ici. C'est une somme d'opérateurs BK croix BK. Ça, c'est très sympathique. C'est un hamiltonien d'oscillateur harmonique avec un H bar oméga K qui est le coefficient qu'il y a devant. Donc, s'il n'y avait que cette deuxième ligne, ça y est, j'aurais fini mon problème. Ce serait un hamiltonien. Ça me donnerait les modes propres de vibration du problème, du système. Et il y a une troisième ligne qui est ici, qui est proportionnel à BKB croix B moins K croix plus B moins K BK. Ça, c'est un produit de deux opérateurs de création et un produit de deux opérateurs d'annihilation. Ça, j'aime pas. Je voudrais pas garder ça. Et justement, c'est ce que je cherche. Je cherche à trouver le θk, cosinus hyperbolique θk et sinus hyperbolique θk, qui me permet d'annuler cette troisième ligne. Donc, pour diagonaliser l'hamiltonien effectif, il faut choisir θk tel que le coefficient de ceci soit nul. À ce moment-là, si je réalise ça, j'aurai à ce moment-là H effectif égale E0 plus sigma sur K H bar oméga de K BK croix BK. J'aurai à ce moment-là résolu mon problème. Alors pour ce faire, il faut prendre le coefficient de ce terme-là, qui est moins h bar k2 sur 2m u kvk plus ceci, égale 0. Bon, cosinus hyperbolique, ça me donne un sinus hyperbolique de 2θk sur 2. Cosinus carré hyperbolique plus sinus hyperbolique carré, ça me donne cosinus hyperbolique de 2θk, moins sinus hyperbolique de 2θk, donc ça c'est une équation qui contient cosinus hyperbolique de θk et sinus hyperbolique de θk, en divisant tout par cosinus hyperbolique de θk, j'obtiens l'équation que je cherche. Tangente hyperbolique de 2θk est donnée par l'expression ρ v tilde de k divisé par h bar de k2 sur 2m plus ρ v tilde de k. Donc si je prends le paramètre θk donné par cette équation, à ce moment-là, ce coefficient s'annule. Et j'obtiens cet hamiltonien. Et à ce moment-là, avant d'aller plus loin, rapidement, comment on calcule uk carré, vk carré, ukvk, qui apparaissent dans tous les autres termes ici. Dans tous les autres termes, j'ai vk carré, uk carré, ukvk. À ce moment-là, j'ai trois équations très simples. Uk carré plus vk carré, c'est cosinus carré plus sinus, cosinus hyperbolique carré plus sinus hyperbolique carré, c'est cosinus hyperbolique de θk, qui est 1 sur racine de 1 moins tangente hyperbolique carré de θk. Uk carré moins vk carré, c'est 1. 2ukvk, c'est sinus hyperbolique de θk, d'où j'en déduis immédiatement uk carré, vk carré, ukvk en fonction des quantités qui sont là. Si je prends un potentiel à très courte portée, si je remplace v de r par v delta qui est g delta de r, à ce moment-là, tous les v de k sont identiques à v de 0 et ils sont tous identiques à g qui est égal à 4pi h bar 2 sur m petit a. Alors, avant d'aller plus loin, ici, le contenu physique de cette équation maintenant est très clair. Le vide de cette partie-là, c'est le vide des opérateurs BK, c'est-à-dire c'est l'état tel que BK 0 égale 0, quel que soit K. L'équation adjointe, c'est Psi 0 BK 3 égale 0. Donc l'état Psi 0 est tel que ce terme est nul. Et à ce moment-là, comme ce terme est positif défini, l'état psi 0, c'est le nouvel état fondamental du système, et E0, c'est la nouvelle énergie de l'état fondamental. Donc E0 a une sens très claire, c'est l'énergie de l'état fondamental. Et puis, qu'est-ce que c'est que H bar oméga k? C'est l'énergie d'une excitation élémentaire. Il y a des excitations élémentaires dans le système, dont le nom peut varier et donné par un nombre entier, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et l'énergie de chaque excitation élémentaire, c'est H bar de oméga k. Et la fonction oméga de k, c'est la relation de dispersion des excitations élémentaires. Alors j'ai maintenant, dans la fin de ce cours, discuter successivement les relations de dispersion, l'énergie de l'état fondamental et la fonction d'onde de l'état fondamental, le psi 0. Étudier un petit peu le contenu physique de ces trois quantités. Et je vais commencer, si vous voulez bien, par relations de dispersion. Et je crois que c'est le paragraphe 5. Ou bien excitation élémentaire. Je vous rappelle que la méthode variationnelle ne donnait que l'état fondamental. Maintenant, nous avons les premiers états excités du système. Alors, excitation élémentaire, d'abord, relation de dispersion. Bien, alors si je reviens à ce transparent, qui est ici, je vais maintenant calculer le coefficient de BK croix BK. Et c'est donné par ce terme plus celui-là. Je sais que la troisième ligne est nulle, donc rho BK, que multiplie ce crochet, est égal à 2 fois H bar 2K2 sur 2M UK BK. Donc je peux remplacer ceci par 2 fois H bar 2K2 sur 2M UK BK, et j'obtiens la deuxième ligne, j'obtiens que H bar oméga K, c'est sigma sur K, de H bar 2K2 sur 2M, UK carré, plus VK carré, plus 2 UK VK. Maintenant, si je prends les expressions de UK carré, VK carré, UK VK, j'ajoute ça plus ça, ça s'en va, ça multiplie par 2, ça revient à ajouter H bar 2K2 sur 2M plus rho VK plus rho VK. Je retrouve la même quantité qu'en dessous. Le H bar 2K2 sur 2M qui est ici, je le retrouve en bas. Et tout ceci se simplifie immédiatement pour me donner égal racine carrée de H bar 2K2 sur 2M qui multiplie H bar 2K2 sur 2M plus 2 rho V2K. Ça, c'est la fameuse relation de dispersion dérivée la première fois par Bogoliubov, qui me donne donc la fréquence H bar oméga de K en fonction de K. Alors maintenant, je voudrais un petit peu discuter cette relation, et avant de faire cela, introduire dans l'échelle des valeurs de K quelques repères importants. Donc quelques repères importants pour le nombre d'ondes K. C'est ce que je dessine ici. Tout d'abord, il y a une première quantité qui est V2K, c'est la transformée de Fourier de V2R. V2R a une certaine largeur, entre guillemets, une certaine portée typique, qui est la portée du potentiel, que j'appelle RE. Donc la largeur de V2K, c'est 1 sur RE, où RE est la portée du potentiel. Ça veut dire que pour K beaucoup plus grand que 1 sur RE, V2K commence à tomber, à changer par rapport à sa valeur V de 0. Autrement dit, V2K est de l'ordre de V de 0, c'est-à-dire G, tant que K est plus petit que 1 sur RE, puis il diminue. Ça, c'est une première valeur importante. Une deuxième valeur importante de K, si je regarde cette expression, c'est la valeur K0 de K telle que ce terme-là, l'énergie cinétique, est de l'ordre de grandeur de 2 ρV de K0, l'énergie d'interaction. Donc une autre valeur importante de K, c'est ce que j'appelle K0, telle que H bar de K0 carré sur 2M égale ρV K0. Et je vais supposer pour le moment, je vais le justifier après, je vais supposer que K0 est beaucoup plus petit que 1 sur RE. En effet, si je suppose pour le moment que K0 est beaucoup plus petit que 1 sur RE, je peux remplacer VK0 par V20. V20, c'est ρg. J'ai la constante de couplage. G, c'est 4 pi h bar 2 sur m à ρ. Et je vois que la valeur de K0 est donnée par h bar 2 K0 carré sur 2m égale 4 pi h bar 2 sur m à ρ. en multipliant partout par 2m sur h bar 2, K02 égale 8 pi à rho, et là je retrouve une connaissance, la longueur psi 0 que j'avais introduite, je crois, dans le cours 5, qu'on a appelé la longueur de relaxation, en anglais killing length, c'est la longueur, vous vous rappelez que si on mettait un condensat dans une vraie boîte, avec des vrais murs, des parois, la densité était uniforme dans la boîte, sauf près des murs où elle s'annulait sur une distance de l'ordre de xi 0. Et xi 0, nous l'avons appelé la longueur de la relaxation, c'est la longueur au bout duquel le condensat perturbé réagit et reprend sa valeur uniforme. Vous vous rappelez cette longueur? Et elle est égale à 1 sur racine de 8 pi à rho. Donc ça, c'est une autre longueur, c'est un autre K0 important. K0 égale 1 sur xi 0. Maintenant, vérifions a posteriori que j'avais bien le droit de mettre les deux longueurs dans cet ordre-là. Xi 0, c'est de l'ordre, si je laisse tomber le 8 pi, bon, vous allez me dire que 8 pi, c'est pas petit. Bon, si je laisse tomber le 8 pi, c'est 1 sur racine de a rho. Je multiplie au débat par a, qui est racine carrée de a2, et je trouve que c'est a sur racine carrée de rho a cube. A, c'est de l'ordre de grandeur de Ra, de la portée du potentiel. Et rho a cube, c'est un paramètre extrêmement important dans cette théorie. C'est le paramètre qui représente le nombre d'atomes dans un volume a cube. Et ce nom est très petit, parce que le milieu est dilué. Le caractère dilué du gaz se traduit par la condition rho a cube très petit devant l'unité. Donc, a sur rho a cube est beaucoup plus grand que a, et j'avais donc le droit de considérer que 1 sur xi 0 est beaucoup plus petit que 1 sur Ra. Donc pour un gaz dilué, ces deux valeurs de K qui sont importantes sont dans l'une par rapport à l'autre de cette manière. Alors maintenant, je reviens à la discussion de cette formule. Discussion physique. Si je prends K très très petit devant K0, égale 1 sur phi 0. Ce terme-là est tout petit devant celui-là. Donc je néglige. Je peux remplacer à ce moment-là V de K par V0, c'est-à-dire par G. Et en H bar de K2, ça va me donner H bar K qui sort du radical. Les H bar se simplifient et j'obtiens oméga égale CK ou C. C'est 2 rho g, racine carrée de 2 rho g sur m. 2 rho g sur 2m, c'est-à-dire rho g sur m. À ce moment-là, je trouve que les excitations élémentaires ont une relation de dispersion linéaire avec une vitesse de propagation racine carrée de rho g sur m. Donc on peut décrire ces excitations élémentaires comme des phonons. On a des phonons qui se propagent dans le gaz avec une vitesse racine de rho g sur m. Je te rappelle que c'est un gaz homogène dans une boîte. Par contre, si je prends K beaucoup plus grand que K0, à ce moment-là, c'est ce terme qui est négligeable devant celui-là. Je le néglige. La racine carrée de h bar 2 k2 sur 2m au carré, c'est h bar 2 k2 sur 2m. Je simplifie par h bar et j'obtiens oméga égale h bar k2 sur 2m. Je retrouve à ce moment-là la relation de dispersion des ondes de De Broglie d'une particule libre. Donc, la théorie de Bogoliubov nous montre le résultat suivant, qui est très important. C'est que la relation de dispersion des excitations élémentaires du gaz démarre linéairement avec une pente finie qui est donnée par C, qui est ici, puis elle devient, pour K plus grand, parabolique. Et le fait qu'elle part ici avec une pente différente de zéro a des conséquences ensuite très importantes pour le caractère de superfluidité du système. Vous voyez ici que si je compare ce résultat avec celui que nous avions établi la semaine dernière de manière stupide en appliquant bêtement la théorie des perturbations, on avait trouvé un gap, ben, c'est pas vrai, il n'y a pas de gap. Le spectre est continu, le spectre des niveaux d'énergie est continu, perturbé, et part de zéro. Simplement, comme le spectre part avec une pente linéaire non nulle, au lieu de partir paraboliquement, la densité d'état au voisinage de zéro est réduite sous l'effet des interactions, par rapport à ce qui se passe dans un gaz libre. Enfin, je voudrais, avant de quitter ce sujet, faire la remarque suivante. J'ai redonné ici l'expression de tangente hyperbolique de 2 θk. Tangente hyperbolique de 2 θk, c'est rho vk sur h bar de k2 sur 2m plus rho vk. Si je remplace v2k par g, en disant que l'intervalle de variation caractéristique du dénominateur, c'est k0, et à ce moment-là, dans cet intervalle, je vais remplacer v2k par une constante. J'obtiens rho g sur h bar de k2 sur 2m plus rho g. Je remplace g par 4pi h bar 2 sur m. Je multiplie par 2m sur h bar 2. Et je fais apparaître 8pi à rho sur k2, 8pi à rho, c'est-à-dire k02 sur k2 plus k02. Autrement dit, le tangent hyperbolique de 2θk en fonction de k, ça a une forme d'une lorentzienne. Évidemment, si on va très loin ici, ça va descendre plus vite à cause de la dépendance en k de vk, mais dans un intervalle de quelques k0, c'est une lorentzienne, avec une largeur à mi-hauteur qui est égale à k0. Et voyez à ce moment-là que pour k plus petit que k0, tangente hyperbolique de 2θk est de l'ordre de 1, ça veut dire que θk est de l'ordre de l'infini. Ça veut dire que cosinus hyperbolique θk est de l'ordre de sinus hyperbolique de θk, ça veut dire que uk est de l'ordre de vk. Donc, dans la partie linéaire de la relation de dispersion, uk et vk sont du même ordre de grandeur. Ça veut dire que les excitations élémentaires du système sont des superpositions linéaires à poids égaux d'un ak et d'un a-k croix, d'une particule et d'un trou. Alors que pour k très grandement k0, tangente hyperbolique de 2θk tend vers 0, θk tend vers 0, uk devient de l'ordre de 1, cosinus hyperbolique, et le sinus hyperbolique tend vers 0, uk tend vers 1, à ce moment-là, les excitations élémentaires sont uniquement, le bk est pratiquement confondu avec ak, on retrouve le spectre d'excitation élémentaire du gaz de boson libre. Bon, j'en ai fini avec ce premier chapitre, et maintenant, j'aborde un deuxième un chapitre suivant, qui est 6, je passe maintenant à l'étude de cette quantité-là, énergie de l'état fondamental. Alors, je repars de la suffixe 6. Et je prends maintenant la première ligne qui est ici. Et ça, c'est E0. C'est donc E0 qui est donné par cette formule. 1 demi de n rho v tilde à 0 plus une somme sur k de h bar 2k2 sur 2m vk carré plus rho vk vk carré moins uk vk. Comme toutes les quantités uk carré, vk carré, uk vk varient avec, sur un intervalle caractéristique de l'ordre de k0, je vais remplacer, et que k0 est plus petit que 1 sur r, je vais remplacer partout ici v2k par v0, c'est-à-dire par g, par 4pi h bar 2a sur m. K0 carré, c'est 8pi à rho, c'est 1 sur phi 0 carré, et je vais introduire la variation de dimension, x égale k sur k0. Et si on fait cela, après quelques lignes de calcul, on trouve que l'énergie d'état fondamental, c'est donnée par n, 2pi h bar 2 sur m à rho, une constante, plus une somme sur k d'une quantité qui dépend de k, c'est-à-dire x k0, h bar 2 k2 sur 2m, cette quantité plus ce nombre que multiplie cette quantité. En remplaçant k2 par x k0, en mettant en facteur un certain nombre de termes, sans aucune approximation, on passe de cette quantité à E0 égale 2pi h bar 2 à rho sur m, que multiplie n, plus somme sur k différent de 0, de x racine de x2 plus 2, moins 1 moins x2. Alors, on tombe donc sur une somme qu'on va transformer en intégrale, et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que cette intégrale est convergente? Pour voir si une intégrale est convergente, pour x grand, d'abord pour x petit, il n'y a pas de problème, parce que quand on passe d'une somme à une intégrale, il y a le 4 pi rho 2 des rho, il y a le rho 2 qui supprime toutes les divergences possibles qui peuvent apparaître, mais pour x très grand, il faut regarder le comportement de ce crochet qui est là, que j'appelle z, qui est x2 plus 2 moins 1 moins x2. Et là, il faut faire attention parce que racine carrée de x2 plus 2, je peux l'écrire x racine de 1 sur plus 2 sur x2. Pour x grand, je peux développer en unité. C'est x 1 sur 1 plus 1 sur x2 moins 1 demi de 1 sur x4. Et quand je multiplie ça par x et que j'enlève moins 1 moins x2, je trouve que z, cette quantité-là, pour x très grand, ça se compense comme moins 1 sur 2x2 plus un terme, le terme d'ordre suivant, c'est un terme en 1 sur x4. Donc, j'ai une somme sur k, je rappelle que k c'est x k0, de 1 sur x2. Et à ce moment-là, je m'aperçois que ça diverge. Je trouve qu'une partie divergente de V0, je trouve que sigma sur k différent de 0 de z, c'est 1 sur sigma k différent de 0 de moins 1 sur 2x2. C'est k02 moins k02 sur 2 somme sur k différent de 0 de 1 sur k2. Et cette somme sur k de 1 sur k2, à plusieurs reprises dans les cours précédents, nous l'avons trouvée. Et c'est une somme divergente, parce que quand je remplace somme sur 1 sur k2 par somme de 0 à l'infini de 4 pi k2 dk 1 sur k2, je vais trouver une divergence linéaire par rapport à la bande supérieure. Alors, pour résoudre cette difficulté, je transforme un petit peu cette équation. Elle est divergente, mais je la transforme un petit peu. J'ai E0 divergente égale moins 2 pi h bar 2 sur m arrow k02 sur 2, cette somme. K02 sur 2, c'est 4 pi arrow. Je réécris ce terme sous cette forme-là, et je fais apparaître g au carré, ma constante de couplage au carré, et g c'est 4 pi h bar 2 sur m que multiplie a. Donc je m'aperçois que cette somme divergente, elle est en g carré. Donc elle rappelle le terme de perturbation du deuxième ordre de l'état fondamental que j'avais calculé la semaine dernière avec le potentiel effectif V delta, G et delta R, un potentiel en fonction delta dont on sait, vous rappelez le cours 4, qu'il donne une divergence sur le terme du deuxième ordre. Effectivement, si je reviens au cours précédent, équation 735, le calcul du déplacement de l'état fondamental au deuxième ordre en G, fait avec le potentiel V delta, G delta de R, donné moins nn moins 1 mg2 sur 2h bar 2 L6, sigma k différent de 0 de 1 sur k2, et en remplaçant nn moins 1 sur L6 par n2 sur L6, c'est-à-dire par n sur L3 au carré, c'est-à-dire par ρ2, je trouve moins 1,5 de m ρ2 g2 sur h bar 2 sigma k différent de 0 de 1 sur k2, et si je compare ces deux équations, je m'aperçois que la partie divergente de E0 ici, c'est exactement le déplacement au deuxième ordre de l'état fondamental calculé avec le potentiel G delta de R. Or, nous savons, depuis le cours 4, qu'on n'a pas le droit d'utiliser G delta de R à des ordres supérieurs à 1 à cause de problèmes de convergence uniforme. Si, au lieu d'utiliser G delta, on étudie V pseudo, qui est G delta de R, V sur DR de R, à ce moment-là, on trouve des résultats finis, parce qu'il faut faire agir le D sur DR de R après avoir fait la somme sur K, et non pas l'inverse. La semaine dernière, j'ai calculé péniblement, mais complètement jusqu'au bout, j'ai calculé delta E0 d'ordre 2 avec V pseudo, et nous avons montré qu'il était nul, et non pas infini. D'où ce que je vais admettre aujourd'hui, c'est que si on faisait le calcul sérieusement, dès le début, avec V pseudo, ce serait beaucoup plus lourd. On trouverait non pas ici delta E0 divergent, mais on trouverait quelque chose de nul. Ça, je vous demande de l'admettre, parce que sinon, ça serait des calculs vraiment complexes. En fait, Yvan Castin les a fait et a vérifié qu'en partant d'emblée avec des pseudos, on trouve un résultat nul pour la partie delta E0 d'ordre 2. Donc, cette divergence est factice, elle est liée à l'utilisation d'un mauvais état hamiltonien. Si on avait pris des pseudos, on ne l'aurait pas trouvé. Donc, il faut enlever cette partie divergente. Et comme la partie divergente de Z, c'est moins 1 sur 2x2, pour l'éliminer, j'ajoute plus 1 sur 2x2. D'accord? Je m'excuse, c'est une méthode un peu heuristique, mais j'ai tenu à vous montrer la semaine dernière que quand on calcule les delta et 0 à l'ordre 2, soit avec V delta, soit avec V pseudo, on trouvait un résultat infini ou 0. Même chose qu'on avait trouvé en calculant ce qui se passait pour une particule dans une boîte sphérique ou pour 4. Donc, éliminons de ces 0 divergents. Je signale que dans les livres, souvent ce problème, il y a une note en bas de page disant c'est infini mais c'est pas grave, et puis on passe sans aucun commentaire supplémentaire. Bon, donc voici maintenant la nouvelle expression de E0. E0, c'est donc donné par 2 pi h bar 2 arrow sur m n, 1 plus 1 sur n, cette somme que j'appelle y. Cette somme sur k, on la transforme en intégrale, en remplaçant sigma k par V sur 2 pi cube, somme de 4 pi k 2 dk, on passe de k à x par x égale k sur k0. Et finalement, on trouve que ce terme-là, qui est là, qui s'ajoute au 1 qui est là, ce terme-là, est donné par 8 sur 8 racine de 2 sur pi, rho à cube à la puissance 1/2, l'intégrale de 0 à l'infini de dx, cette fonction de x, et maintenant, comme on a enlevé la partie divergente, elle est convergente, et elle vaut 8 racines de 2 sur 15. De sorte que, quand j'utilise cette valeur de l'intégrale, je mets ici, que je reporte là-dedans, on obtient un résultat important que je vais marquer au tableau, parce qu'on aura besoin par la suite. On trouve que E0 égale 2 pi h par 2 arrow sur m, n, facteur de 1, plus 128 sur 15 racine de pi, rho à cube à la puissance 1/2. Alors, juste pour vous enlever tout complexe vis-à-vis de cette intégrale. Cette intégrale a l'air comme ça complexe, en fait elle est très simple. Pour la calculer, il suffit de calculer l'intégrale de 0 à xn, et puis de faire tendre xn vers l'infini. Bon, je fais toujours une parenthèse ici. J'ai longtemps hésité, puis après c'est tout bête, l'intégrale est toute bête à calculer. On prend 0 à xm de cette quantité-là, et on prend la limite pour xn devant l'infini. Ici on a un x dx qui est d de x2 sur 2. On a donc ce terme-là, c'est d de x2 sur 2, x2 racine de x2 plus 2. J'ajoute et je retranche 2 plus 2 moins 2, donc ça fait d sur dx2 de x2 plus 2 à la puissance 3/2, plus moins 2, x2 plus 2 à la puissance 1/2. Et ça s'intègre immédiatement, avec la borne supérieure moins la borne inférieure, de 0 à l'infini. Et les intégrales de ces termes, de ces termes, de ces termes sont absolument triviales. Alors évidemment, ça diverge, mais ici, ce terme, pour xm grand, contient un terme en xm cube, xm à la puissance 3 et xn. Ce terme pour xm grand contient xm cube et xn. Et je trouve que tous les termes qui divergent se compensent, parce que l'intégrale est convergente. Il ne me reste plus que la différence de ces deux quantités, qui après deux lignes de calcul est égale à 8 racine de 2 sur 15. Donc cette intégrale est triviale à calculer. Et donc, vous voyez l'intérêt de ce gaz de boson dans une boîte, mis à part la difficulté de la divergence de delta E02, donne une formule analytique pour l'état fondamental, pour l'énergie d'état fondamental. Et maintenant, je vais la comparer avec le résultat du calcul variationnel, pour voir un petit peu quel progrès nous avons effectué par rapport à l'équation de Gross-Pitaïevski. Alors, revenons au calcul variationnel. Le calcul variationnel revient à chercher la valeur minimale de psi h psi sur psi psi, où h est l'hamiltonien du système d'n particules, en se restreignant, en ne faisant pas plus varier psi dans tout l'état, dans tout l'espace de Hilbert, mais dans un sous-espace de l'espace de Hilbert, qui est le sous-espace des états produits identiques, phi de 1, phi de 2, phi de n. Et qu'on cherche le minimum de ceci, on trouve que phi de r obéit à l'équation de Gross-Pitaïevski. Et l'énergie d'état fondamental approchée, c'est la valeur minimale de E de phi. Donc le E0 variationnel, l'énergie d'état fondamental par la méthode variationnelle, c'est le minimum de cette quantité-là. Nous avons résolu l'équation, bien sûr, de Gross-Pitaïevski dans une boîte. Si on prend des vraies conditions limites, on s'aperçoit que la densité de la particule est constante dans toute la boîte, sauf sur une distance de l'ordre de psi 0 au voisinage des parois. Si psi 0 est très petit devant L à la limite thermodynamique, on peut négliger les corrections d'énergie liées à psi 0. Et au lieu de prendre des conditions aux limites avec la fonction d'onde qui s'annule sur les parois de la boîte, il est plus simple mathématiquement de prendre des conditions aux limites périodiques. Et à ce moment-là, la fonction d'onde, on fait une erreur négligeable en psi sur L. Et à ce moment-là, la fonction d'onde solution de l'équation de Gross-Pitaïevski, c'est tout simplement la fonction d'onde uniforme, phi k égale 0, qui est 1 sur n puissance 3/2. Je sais qu'à ce moment-là, E de phi, c'est E cinétique plus E de piège plus E interaction. Comme la fonction d'onde est constante dans l'espace, E cinétique est nulle. E de piège est nulle parce que je néglige la contribution de la variation sur la distance psi 0. Et E de phi se réduit à E interaction. Et que vaut E interaction? C'est, vous rappelez, G n n-1 sur 2, somme de D3R de phi de R à la puissance 4. C'est donc G, je remplace n-1 par n, G n2 sur 2, somme de D3R 1 sur L6. C'est donc L3 sur L6. N sur L3, c'est rho. Et il me reste donc G sur 2 n rho. Et je remplace G par 4 pi h bar 2 sur m a. C'est 2 pi h bar 2 sur m a rho n. Et si je compare ça, c'est 2π h bar 2 a rho m. Donc ceci, je peux dire que ceci, c'est E0 pour rho du bord. Et ceci, c'est E0 variationnel. Donc, je trouve que la théorie de Bogoliubov me donne pour l'énergie de l'état fondamental l'énergie variationnelle que multiplie 1 plus une correction. Et je vois maintenant que la correction est caractérisée par un infiniment petit qui est rho à 3, qui est le nombre de particules dans le volume A cube. Si le gaz est dilué, rho à cube est plus petit que 1, et donc cette correction est plus petite que 1, et ça justifie, disons, l'approche de Bogoliubov. Donc la condition de validité de l'approximation de Bogoliubov, du développement de Bogoliubov, c'est rho à cube très petit devant 1. Alors, tant qu'on y est, on peut aussi calculer la nouvelle valeur du potentiel chimique. D'abord, le potentiel chimique variationnel, c'est d sur dn de E0 pour n particules, calculé variationnellement. Alors, le E0 variationnel, c'est ceci. Alors, attention, ne pas croire que la dépendance en n ne vient que de ce terme. Rho est égal à n sur v, donc ce terme, sa dépendance en n, c'est n2 sur v. Et donc, la dérivée par rapport à n, de n2 sur v, ça va faire n sur v. Et le mu variationnel, ça va être donc gn sur l3, c'est g rho. Et donc, mu variationnel, c'est g rho. Si je vais maintenant calculer mu Bogoliubov, il faut que je dérive par rapport à n cette quantité. Alors, le premier terme, ça va me donner mu variationnel. Et le deuxième terme, attention, je vais avoir ici un n. Je vais avoir ici un n, n sur v. Et puis ici, je vais avoir un n sur v à la puissance 1,5. Donc, je vais avoir un n à la puissance 1,5. Donc, la dépendance en n du deuxième terme, ça va être 5 rho à la puissance n à la puissance 5,5. Donc, quand je vais prendre la dérivée par rapport à n, je vais avoir n puissance 3,5. Et quand je mets un facteur mu variationnel, je trouve que mu Bogoliubov égale mu variationnel que multiplie 1 plus... Alors, où c'est que je veux... 1 plus 32 sur 3 racines de pi. Le 15 ici, le 5,5 fait partir un 15 ici. Et le 32, c'est 128 divisé par 4, rho à la cube à la puissance 1,5. Et je trouve ainsi, la théorie de Bogoliubov me donne ainsi la première correction au potentiel chimique par rapport à la valeur du potentiel chimique trouvée dans la théorie variationnelle. D'accord ? Donc vous voyez, cette théorie de Bogoliubov, on a gagné beaucoup de choses. D'abord, on a calculé les premières excitations du système, on a calculé leur relation de dispersion, la vitesse de propagation des particules, de ces excitations élémentaires, et maintenant nous avons des corrections à l'énergie de l'état fondamental et au potentiel chimique. On pourrait aussi dériver, je le ferai la prochaine fois pour étudier les modes de vibration, on pourrait dériver E0 Bogoliubov par rapport au volume et calculer la pression, et calculer la pression d'abord variationnelle et la pression, les premières corrections de la pression en rho à cube. Donc, j'ai fini de discuter cela, j'ai discuté maintenant les zéros, et maintenant je voudrais discuter un petit peu psi 0, qui est donné par ces deux équations. Je ne vais pas calculer le développement de psi 0 dans la base des états propres de K. Je vais calculer un paramètre qui est intéressant, qu'on appelle donc 7, la déplétion quantique de l'état fondamental. Ici, avant de commencer par calculer Bogoliubov et de le comparer à la théorie variationnelle, je veux faire l'inverse. Commencer par rappeler la théorie variationnelle. Dans la théorie variationnelle, la solution de l'équation de Gross-Pitewski, qui tient compte des interactions en termes de champ moyen, donne pour l'état fondamental, phi 0 de R égale 1 sur L puissance 3,5. Donc, elle donne toutes les particules dans l'état phi 0. La théorie variationnelle. Le gaz de boson libre, sans interaction, la condensation de Bose-Einstein, se fait également toutes les particules dans l'état phi0, 1 sur L3,5. Donc, la théorie variationnelle, aussi bien que la théorie sciences d'interaction, l'état fondamental, que j'appelle 0, 0 variationnel, c'est phi0 de 1, phi0 de 2, phi0 de L. Donc, le nombre d'occupations de l'état fondamental, phi0, N0, est égal à N, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc, qu'on utilise uniquement la théorie variationnelle dans une boîte, l'état fondamental est occupé par toutes les particules au zéro absolu. Et on n'a pas de peuplement des états quatre différents de zéro. Nous allons voir qu'il n'en est pas de même quand on tient compte de la théorie de Bogoliubov. Et on va montrer maintenant que N, le nombre total de particules, moins le nombre total de particules dans l'état fondamental, qu'est-ce que c'est? Je connais Psi0, qui est donné par ces deux équations. C'est donc Psi0, et je calcule la valeur moyenne de ça. Quelle est la valeur moyenne de N-0? C'est la valeur moyenne dans l'état Psi0, de somme sur 4 différents de 0, de AK croix, AK. Est-ce que je peux calculer cette quantité? Réponse oui. En effet, voilà N-0. Je connais l'expression de AK et AK croix en fonction de BK. BK moins BK, B moins K croix. Je remplace AK croix par UK BK croix moins VK B moins K. Psi0, c'est l'état fondamental de Bogoliubov. Donc, BK Psi0 est nul. Donc, ce terme-là ne va pas intervenir. Il disparaît, je peux l'enlever. De même, BK croix agissant sur le bras Psi0 est nul, donc je peux enlever ce terme-là. Et finalement, cette quantité, c'est tout simplement sigma sur K différent de 0 de moins VK, VK croix, la valeur moyenne dans l'état Psi0 de B moins K, B moins K croix. Et ça, c'est trivial, parce que B moins K, B moins K croix, c'est 1 moins B moins K croix, B moins K, c'est une relation de commutation, et BK agissant sur le vide tendant de 0, c'est donc Psi0, Psi0, je suppose que Psi0 est normé, donc c'est sigma K différent de 0 de VK croix. VK carré. Donc j'ai une expression analytique pour N-0 qui est sigma K VK carré. On remplace la somme discrète par une intégrale, par cette formule. On utilise l'expression de VK carré que j'ai donnée tout à l'heure en fonction de X et je tombe sur N-0 égale L3K0 cube sur 4π2, l'intégrale de 0 à l'infini de dx, x que multiplie cette quantité. Comme tout à l'heure, pas de problème, on intègre de 0 à xm et on fait tendre xm vers l'infini, et on trouve après quelques lignes de calcul que j est égal à racine de 2 sur 3, l'intégrale convergente, il n'y a pas de difficulté ici. Et on trouve finalement, en remplaçant cette expression par cette valeur, on trouve que n moins n0 sur n, qu'on appelle la déplétion quantique de l'état fondamental, c'est le nombre de particules non qui ne sont pas dans l'état k égale 0 divisé par n, est donné par un coefficient 8 sur racine de 3π, et on retrouve toujours le même infiniment petit, ρ à cube à la puissance 1/2. Donc, on voit que quand on tient compte de manière plus correcte des interactions dans l'état fondamental du gaz de boson, les interactions font que certaines particules quittent l'état K égale 0 pour occuper des états excités. Et toutes les particules ne sont pas dans l'état K égale 0. Enfin, dans les quelques minutes qui me restent, je vais maintenant aborder un dernier problème, qui est le problème des corrélations spatiales. Qui est une autre propriété intéressante de l'état Psi0 qui est ici. Là encore, je le fais dans l'ordre inverse. Je reviens au modèle de champ moyen par la théorie variationnelle. Dans la théorie variationnelle, l'état fondamental est un état produit. Quand on dit un état produit, c'est un état où il n'y a aucune corrélation entre les positions des particules. La probabilité de trouver une particule ici et la probabilité de trouver une particule ici, c'est simplement le produit de trouver une particule ici par le produit, par la probabilité de trouver une particule là. La densité à deux corps factorise. Nous allons voir que si on prend l'état psi 0, maintenant qui est donné par ces équations, il n'en est plus de même et que la densité à deux corps n'est plus le produit de deux fois la densité à un corps. Alors auparavant, rappelons un petit peu ce que sont les densités à un corps et à deux corps. La densité à un corps, rho 1 de R, c'est la densité de probabilité de trouver une particule quelconque au point R dans un volume des 3 R. C'est donc donné par rho 1 de R égale la valeur moyenne dans l'état psi 0 de l'opérateur delta de Ri moins R, où Ri chapeau c'est l'opérateur position de la particule I moins R, fonction delta sommée sur toutes les particules. C'est la probabilité de trouver la particule I au point R, la particule, la particule J au point R, sommée sur toutes les particules. Voilà l'expression de rho I de R, de rho 1 de R en formaline habituelle. En seconde quantification, c'est beaucoup plus simple, c'est rho 1 de R, c'est la valeur moyenne dans l'état psi 0 de l'opérateur psi chapeau croix de R, psi chapeau de R, ou psi chapeau et psi chapeau croix sont les opérateurs de destruction et de création d'une particule au point R. Si vous voulez, psi chapeau croix psi, R, c'est, c'est l'opérateur densité spatiale au point R. Pour un gaz homogène, comme un gaz dans une boîte, évidemment, rho 1 de R est indépendant de R, le problème est invariant par translation, et forcément égal à rho, c'est-à-dire à N sur G. Étudions maintenant la densité à deux corps, rho 2 de R, R'. Rho 2 R, R', c'est la valeur, dans le formalisme habituel, c'est la valeur moyenne dans l'état psi 0, sigma sur i, sigma sur j différent de i, une fonction delta de l'opérateur position de la particule i moins r, que multiplie une fonction delta de l'opérateur position de la particule j moins r'. Alors ici, vous pouvez me dire pourquoi vous ne mettez pas 1/2. La réponse est non, c'est qu'à ce moment-là, il faut que je compte. Au début, quand j'ai des particules numérotées, la probabilité d'avoir une particule là et une particule là, c'est i ici, j là, ou j ici et i là. Donc il faut que j'ajoute les deux probabilités quand les particules sont numérotées. Donc il n'y a plus d'un demi. Et qu'on passe en seconde quantification, rho 2 RR', c'est psi 0, la valeur moyenne dans l'état psi 0, d'un produit de 2 psi croix de R chapeau, psi croix de R' chapeau, que multiplie psi de chapeau de R', psi chapeau de R. Avec cet ordre-là, R, R', R', R. Alors maintenant que nous connaissons psi 0, si on est capable de calculer ces deux quantités, et si on trouve que rho 2 RR' est différent de rho 1 de R, rho 1 de R', qui est égal à rho 2, ça veut dire que les particules sont corrélées spatialement. La présence d'une particule en un point influence sur la probabilité de trouver une autre particule à une certaine distance. C'est une quantité très importante, par exemple, pour interpréter toutes les expériences de diffraction de neutrons et de ce type-là, ou de la lumière. Alors, calculons rho 2. Alors, dans l'esprit de la transformation de Bogoliubov, qui privilégie A0 et A0 croix de manière importante, psi de R, c'est, je vais rappeler l'expression ici de psi de R, dans le cas général, psi chapeau de R, c'est sigma sur K quelconque, de 1 sur L puissance 3/2, AK, et puissance IKR, sans aucune restriction sur K. Mais dans cette expression, je vais, dans cette somme, sur toutes les valeurs de AK, je vais distinguer le cas K égale 0 des autres. Et si je prends K égale 0 et puissance IKR vaut 1, et donc je peux écrire psi chapeau de R égale 1 sur L 3/2 à 0, plus psi tilde de R, ou psi tilde de R, c'est la somme sur K différent de 0 de 1 sur L 3/2 à K et puissance IKR. De même, pour psi chapeau croix de R, j'aurai 1 sur L 3/2 à 0 croix, plus psi tilde croix de R. Ou psi tilde croix de R, c'est la jointe intensité. Et maintenant, si je remplace dans l'expression de rho 2, il y a un psi croix, un psi croix, un psi, un psi, si je remplace chaque psi croix par A0 croix plus psi tilde, et chaque psi par A0 plus psi tilde, vous voyez que je vais avoir toute une flopée de termes. des termes où il y aura 4 à 0 ou à 0 croix, des termes où il y aura 3 à 0 ou à 0 croix, 2, 1 ou 0. Alors, dans le même esprit que celui de la transformation de Bogoliubov, on va négliger les termes qui ne contiennent que 1 à 0 ou à 0 croix, ou 0 à 0 ou à 0 croix. Par ailleurs, il est facile de montrer qu'il n'y a pas de terme, la contribution des termes qui contiennent 3 à 0 ou à 0 croix est nulle à cause de la conservation de l'impulsion totale. Donc, on ne va garder que des termes à 4 à 0 ou à 0 croix, ou des termes à 2 à 0 ou à 0 croix. Deuxièmement, deuxième chose qu'on fait comme dans la transformation de Bogoliubov, on va remplacer A0 et A0 croix par racine de n, sauf dans le gros terme qui contient A0 croix, A0 croix, A0, A0, où on fait le calcul un peu plus précisément, où on écrit que A0 croix, A0, c'est n, le nombre total de particules, moins le nombre de particules qui ne sont pas dans l'état k égale 0. Donc on suit ici la même philosophie que pour arriver à la Hamiltonie effective de Bogoliubov. Et qu'on fait ceci, on tombe donc sur deux types de termes. Le terme qui contient 4 à 0 ou à 0 croix, je fais exactement le même calcul que la semaine dernière, donc je ne le fais pas en faisant un peu plus attention. On trouve que c'est ρ2 moins 2 sur L3, ρ, somme sur 4 différentes 0 de VK carré. Les termes qui contiennent 2 à 0 ou à 0 croix, j'ai 4 places. Il faut que je mette 2 zéros sur 4 places, donc j'ai C4, 2, c'est-à-dire 12 divisé par 2, il y a 6 termes qui contiennent 2 à 0 à 0 croix, et les 6 termes, je les écris ici, en introduisant pour simplifier les notations, AK est puissance IKR, AK tilde, et AK est puissance IKR prime, AK prime tilde. Il y en a 6 types de termes. On peut vérifier aisément que ces deux derniers termes-là, c'est fait dans les notes, compensent ce terme, et après un calcul, donc, on remplace, les, comme tout à l'heure, AK et AK croix par leur expression en fonction de BK et BK croix, et on utilise cette formule et cette formule, donc la plupart des termes s'en vont, et il reste des sommes sur K de VK carré, de UKVK, de UK carré, et finalement, on obtient un résultat que je vais noter ici. Il est au tableau, donc je vais le laisser tel quel. On a un ρ2 de R et de R' égale ρ2. Je rappelle que ρ2, c'est ρ de R, ρ1 de R, ρ1 de R'. 1 moins qui de R moins R'. Ou qui de S, s'appelle SR moins R'. C'est 2 sur N, somme sur K différentes 0, de E puissance IKS, sinus hyperbolique θk, ça c'est le VK carré, moins cosinus hyperbolique θk, sinus hyperbolique θk, ça c'est VK UK. Je remplace cette somme discrète par une intégrale et j'obtiens finalement ρ2 de RR' égale ρ2 que multiplie 1 moins qui de R moins R', où qui de F, c'est 1 sur ρ, 1 sur 2π cube, somme de D3K et puissance IKS. Je rappelle que K c'est XK0, x sur racine de x de plus 2 moins 1. Donc, là encore, la théorie de Bogoliubov nous montre que ρ2 n'est pas égal à ρ1 au carré. Il y a des corrélations. Et la différence entre ρ2 et ρ1 au carré, c'est donné par ρ2 qui, moins ρ2 qui, et la théorie de Bogoliubov nous donne la transformée de Fourier de qui. Donc, on a résolu le problème. Donc, on sait maintenant la fonction de distribution à deux corps. Et toutes les corrélations sont connues dans cette quantité-là, dans la transformée de Fourier donnée par l'intégrant de cette équation. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans des détails très très complets pour discuter cette quantité, je vais simplement discuter son comportement pour S petit, S et R moins R'. Alors, qu'est-ce que ça veut dire S petit? Ça veut dire S petit devant le Xi0 qui est le 1 sur K0. Vous rappelez, toutes les grandeurs qui dépendent de K varient de manière appréciable quand UK carré, VK carré, quand K égale K0 égale 1 sur Xi0. Et en particulier, la transformée de Fourier spatiale ici, qui dépend de K sur K0, varie de manière appréciable quand X est de l'ordre de 1. Donc S très petit devant X0, mais attention, je prends S quand même grand devant RE, Parce que pour être plus petit que Ré, la théorie qui est basée uniquement sur la longueur de diffusion n'est plus correcte. Il faut vraiment entrer sur l'état stationnaire de diffusion, vraiment au voisinage du cœur, au voisinage des potentiels répulsifs de l'atome. Alors, comment faire ça? Eh bien, vous savez que le comportement d'une fonction, dont on connaît la transformée de Fourier, le comportement de la fonction pour les valeurs petites de la variable, est déterminé par le comportement de la transformée de Fourier aux grandes valeurs de k ou de x. Donc, le comportement de psi de s pour s petit est déterminé par le comportement de l'intégrante de l'intégrale sur k pour x égale k sur k0 grand. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que x sur racine de x de plus 2 moins 1, en divisant au t bas par x, c'est 1 sur racine de 1 plus 2 sur x2 moins 1, et le développement limité de 1 sur racine de 1 plus 2 x2 de 1 plus 2 sur x2 à la puissance moins 1,5, c'est 1 moins 1 sur x2 moins 1, donc c'est moins 1 sur x2. Et je retrouve somme de d3k 1 sur x2, c'est-à-dire somme de d3k 1 sur k2. Et qu'est-ce que c'est que l'intégrale de somme de puissance iks sur k2? L'intégrale, la transformée de Fourier de 1 sur k2, c'est la loi de Coulomb, c'est 1 sur s. Donc, le comportement asymptotique pour s tendant vers 0 de qui de s, on trouve que c'est moins 2a sur s. Où est la longueur de diffusion? En particulier, si je prends 1 moins 2a sur s, si je prolonge comme ça, froidement, je vais trouver que le crochet qui multiplie rho 2 va s'annuler pour 1 moins 2a sur s égale 0, c'est-à-dire s égale a sur 2, et s égale 2a. D'accord? C'est-à-dire pour s égale 2a. Donc la fonction qui tend 1 moins qui tend vers 0 pour s pour r moins r' de l'ordre de a. Pour a grand, pour s grand devant k0, on a cette intégrale ici qu'on peut, comme ça dépend pas de l'intégrant ici ne dépend pas du module de k, on peut faire l'intégrale angulaire. Et après avoir fait l'intégrale angulaire, on tombe sur une intégrale sur module de k de 0 à 2 à l'infini. Et à ce moment-là, on fait un certain nombre d'intégrations par partie élémentaires, et on trouve que chi de s tend, quand s tend vers l'infini, vers moins alpha sur s4 où alpha est un certain coefficient. Donc chi de s, qui représente donc les corrélations spatiales entre les particules, c'est une fonction qui est négative, qui démarre à moins alpha sur s4, qui ensuite tend vers moins 2a sur s, et on s'attend bien sûr à ce que quand s devient de l'ordre de la distance à partir duquel il y a des barrières répulsives, les potentiels répulsifs entre atomes, à ce moment-là, chi de s tend vers moins 1, de manière que 1 plus 1 moins chi. Attendez, là je crois que j'ai fait une erreur. Si on prend 1 moins chi à ce moment-là est positif. Hein. Donc ici c'est moins chi. Parce que bien sûr, ρ2 est positif, donc je m'excuse. Donc ceci doit être toujours supérieur à moins 1 pour que ρ2, le coefficient de ρ2 ne s'annule qu'au moment où les particules entrent réellement en contact. Donc, en résumé, la théorie de Bogoliubov nous a permis d'aller de manière significative au-delà de la théorie variationnelle. Elle nous a donné les premières excitations du système. Elle nous a donné des informations sur l'état fondamental, sur son énergie, sur le nombre de particules qui ne sont pas dans l'état k égale 0, et sur les corrélations spatiales qui existent entre les particules. Alors, à partir de maintenant, je pourrais bien sûr essayer de généraliser la transformation de Bogoliubov à des particules dans un potentiel, qui n'est plus des particules dans une boîte, ça a été fait. Je donne une référence à la fin des notes. Fetter a fait un article de revue très important sur ce problème. Je vais essayer dans les deux cours qui me restent, mardi prochain et mardi 15, de reprendre maintenant le problème des particules piégées, des bosons piégés dans un piège harmonique, et d'étudier les problèmes dépendants du temps dans ces pièges, en repartant de l'équation de Gross-Pitaïsky, mais en généralisant l'équation de Gross-Pitaïsky à des potentiels de piégeage qui dépendent du temps. En effet, dans plusieurs expériences maintenant, portant sur la condensation de Rosenstein, on commence par préparer un condenseur, et puis on commence après, une fois qu'il est formé, en équilibre, on se met à bouger le potentiel dans lequel il est piégé de manière à le mettre en vibration forcée. Et à ce moment-là, on peut observer les modes propres de vibration du condenseur. Et je vais vous montrer que toute cette étude de la dynamique du condenseur peut être faite, bien sûr, par une généralisation de l'approche de Bogoliubov, mais elle peut être faite aussi par une généralisation de l'équation de Gross-Pitaïsky, indépendante du temps, a des problèmes dépendant du temps. Je l'établirai la semaine prochaine. Dans certaines limites, la limite des faibles excitations, où on peut faire une analyse linéaire du mouvement de vibration, la limite des grandes densités, qui est l'équivalent pour les problèmes dépendants du temps de l'approximation de Thomas Fermi pour les problèmes d'équilibre. Et à ce moment-là, on verra que le problème peut être traité par une approximation hydrodynamique. Et en ce moment-là, dans la dernière leçon, je vous décrirai un certain nombre d'expériences permettant de mesurer les fréquences propres de vibration du condensat, l'expansion balistique du condensat en couple potentiel, toute une série de problèmes dépendants du temps, mais toujours à très basse température, où le nombre de particules condensées est beaucoup plus grand que le nombre de particules thermiques qui sont en dehors du condensat. Donc j'arrête ici le cours d'aujourd'hui.